Cube Radio. Vous l'avez vu? Vous l'avez lu? Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer, le guide de l'auto. Cube Radio.
Bonjour tout le monde et bienvenue à la 100e émission du Guide de l'auto sur Cube Radio. Germain, salut.
Bonjour Antoine.
Fébrile?
Fébrile, oui. Hein? Et surtout, je te trouve patient de m'avoir enduré.
Non, pendant, mais c'est un honneur. C'est un honneur de partager le micro en ta compagnie, Monsieur Goyer.
Ben oui. Et bien franchement, je me demandais quand on a commencé l'émission où s'en allait tout ça, parce que c'est un projet qui est né pas mal sur le coin d'une table et on
comme le projet de la grosse brune aussi.
Comme le projet de la grosse brune aussi. Ouais. Donc c'est une idée qui s'est développée tranquillement. Donc,
le projet de la grosse brune, c'est sur le coin d'une table de bois.
D'une table de bois. Fait que de voir que presque 2 ans plus tard, là, après et 100 émissions, après cette première émission qui avait été enregistrée, hein, on se rappelle, en direct au Salon de l'Auto.
Ouais.
Donc, et après ça, ben, ça roulait comme sur des roulettes.
Alors, pour cette...
Oui, c'est ça, on a une émission spéciale.
Hein. C'est ça. Fait que pour cette 100e émission, on va se payer la traite un peu. On va recevoir 2 invités que vous connaissez bien. Le premier, c'est l'instigateur, l'inventeur du guide de l'auto. C'est oui. Jacques Duval qui va être avec nous un peu plus tard. Et s'en suivra Michel Barrette qui, je pense, est reconnu pour sa passion automobile aussi.
Et il y a toujours 2-3 mots à dire sur l'automobile.
Ça. Dans le fond, on s'est écrit une question
oui.
pour Michel Barrette et puis après ça, ça va être du ad lib pendant 3 heures. Fait que on va voir ce que ça va donner. Et puis
on a aussi sorti là les meilleurs moments. Il y en a pas beaucoup. Non. On a sorti les meilleurs moments des 100 premières émissions et comme ben, tout ça coïncide aussi avec la fin de l'année, on a sorti les actualités marquantes de l'année 2020, les véhicules qu'on a hâte de voir en 2021, les véhicules qu'ils ont marqué cette année. Bon, voilà.
Alors, donc, c'est sous une formule rétrospective
oui.
et historique que se présente cette 100e émission.
Oui.
Et on va commencer à parler de ces actualités marquantes, à commencer évidemment par, la COVID et tous les impacts que ça a eu sur le milieu automobile, l'annulation des salons de oui. l'auto d'abord.
Ben c'est ça, ça continue de nous tenir occupés ce virus-là ouais. et d'avoir des impacts sur le milieu automobile. Mais je pense que les premiers impacts qu'on a pu ressentir, c'était justement l'annulation des salons de l'auto. On se rappelle le premier, hein, le salon de Genève qui avait lieu en mars, finalement qui n'a pas eu lieu. D'ailleurs, l'édition 2021, elle non plus n'aura pas lieu.
Puis Détroit, parce que je me souviens que Détroit, pour oui. la première fois, n'avait pas lieu en janvier. C'était reporté au mois de juin.
Et là, on se disait, là, le salon de New York au mois d'avril, mai, autour de Pâques, toujours, avec le salon de Détroit qui allait avoir lieu tout juste après.
Ouais.
On se demandait bien de quoi ça allait avoir l'air, mais ça a l'air qu'il va falloir continuer de patienter. Donc, tous ces salons-là ont été annulés. Et on le rappelle quand même, là, les salons de l'auto, était déjà dans une période de questionnement parce que on devait gérer une décroissance, hein. Le temps de décroissance est à la mode, mais avec les salons de l'auto, c'était carrément ça. Donc un nombre de visiteurs qui était à la baisse, hein, depuis plusieurs années et
beaucoup plus que ce qu'on nous laissait croire d'ailleurs.
Oui, et on était chanceux à Montréal parce qu'on avait encore un nombre considérable de visiteurs
ouais.
pour le poids de ce salon-là, mais donc c'est ça, le nombre de visiteurs qui est à la baisse et l'implication des concessionnaires qui est à la base même des salons était elle aussi là,
concessionnaires et constructeurs ouais.
Donc de les voir se retirer remettait en question l'existence même d'un salon de l'auto et j'ai bien peur que de sauter un an comme ça ça risque de faire mal.
Moi je suis persuadé honnêtement que des salons automobiles tels qu'on les a connus, on ne reverra pas ça. Je garde un très, très beau souvenir des meilleures années du Salon de Genève que moi, j'ai pu visiter, des belles années du Salon de Montréal, etc. Même New York, Los Angeles, etc. Mais
avec des dévoilements massifs.
Ah, c'était incroyable. Mais ça, on ne reverra plus jamais ça. Non. Et si on a un Salon de l'Auto, si on revient avec un Salon de l'Auto à Montréal, tel qu'on l'a connu il y a 2 ans, je vais être le premier surpris, honnêtement. Oui. Oui. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a des constructeurs qui réembarqueront pas là-dedans. Mm-hmm. Il y a des gens qui vont réaliser qu'on peut placer le budget ailleurs. Les gens ont utilisé les plateformes web plus que jamais cette année, se sont rendus compte qu'il y avait des façons de se divertir, de s'informer en automobile.
Et à quel point les gens vont vouloir s'entasser à nouveau au palais des congrès aussi, là, parce que, bon, on prend l'exemple de Montréal, parce que c'est peut-être celui avec lequel les gens sont le plus familiers. Des gros samedis, ils ont tué 30 000 personnes qui défilent au palais des congrès dans un milieu fermé.
Tout ça pour avoir le privilège de s'acheter une pointe de pizza à 16 $ qui
est pas mangeable. En plus! Donc, tu sais, il y a l'accessibilité au centre-ville qui demeure un enjeu. Donc, c'est...
Mais quoi que là, le centre-ville
est plus accessible. Mais toujours est-il que c'était un enjeu.
Absolument.
Donc, j'ai bien hâte de voir comment les salons de l'auto vont évoluer. Mais une chose est certaine, ils n'ont pas eu la tâche très facile cette année.
Non, absolument. Il y a le kiosque de Volkswagen au Salon de l'Auto qui risque d'avoir beaucoup plus d'espace si Salon de l'Auto il y a dans les prochaines années, parce que on a appris récemment que la Volkswagen Arteon ne revenait pas, la Passat serait abandonnée, mais qui plus est, la voiture phare de Volkswagen, c'est la Golf, qui ne sera pas de retour pour une 8e génération. Donc, Volkswagen va conserver ses sportives, là, GTI, Golfer, mais à part ça...
Mais la Golf traditionnelle, comme on la connaît depuis quoi, une quarantaine d'années, ben, tout ça s'est terminé. Donc,
faut pas oublier qu'on a abandonné la Beetle il y a à peine 2 ans, un an et demi.
Donc le VW perd des plumes, perd de grosses plumes. Donc je te dirais que c'est peut-être la nouvelle qui m'a le plus affecté là, dans l'automobile cette année, de voir la Golf disparaître. C'est un modèle auquel j'étais attaché. Et Volkswagen perd une partie de son âme, de son aura avec la perte de la Golf. Et on nous avait dit, hein, on se rappelle, Antoine, initialement, elle devait être vendue au Canada.
On savait que les Américains ne l'auraient plus.
Eux, ils avaient dit non, on n'en veut pas, mais c'est correct. On sait que la Jetta était plus populaire de leur côté, mais on nous avait dit qu'au Canada, on allait l'avoir. Puis finalement, on ne se permettra pas de perdre des sous avec chaque unité vendue, parce que, c'est ça, la Golf de 8e génération est plus moderne que jamais, plus technologique que jamais, et coûte très cher à produire, et de la vendre sur, finalement, juste le marché canadien à l'échelle nord-américaine, c'était pas rentable. Donc, voilà. Donc, Arteon qui va nous quitter, la Passat qui va nous quitter, et la Golf qui, elle, nous a déjà quittés. Donc, pas une année très, très réjouissante chez Volkswagen.
Oui, mais on a l'Atlas Cross.
Oui, C'est correct. Et le Taos qui s'en vient. Yeah. OK.
Ouais, c'est ça. Donc, autre nouvelle d'importance pour les disparitions de voitures, c'est la quasi-totalité des voitures sous-compactes du marché. Je pense que ça, il faut en parler. Là.
Oui, effectivement. Donc, au milieu de l'année 2020, on a appris là, que la Honda Fit allait disparaître, que la Toyota Yaris allait disparaître. Donc, 2020...
Hyundai Accent.
Hyundai Accent. Rio dans sa version berline. Donc, on conserve la version à Hayon, mais
Mitsubishi Mirage G4 disparu.
Donc, on a vraiment coupé dans le gras, même s'il n'y en avait pas beaucoup de gras, dans les voitures sous-compactes. Donc, c'est un segment qui disparaît presque dans son entièreté. Et,
on a oublié de nommer la Micra aussi.
Oui, mais qui était disparue en 2019, mais qu'on a étiré en cours d'année 2020. Mais ironiquement, c'est ça, on nous revient pour 2021 avec une nouvelle sous-compacte chez Nissan avec la Versa, mais c'est ça, donc une berline plutôt qu'une voiture 5 portes à haillon comme c'était le cas de la Micra. Donc on continue d'essayer de garder ce segment-là en vie, mais c'est de moins en moins facile.
Ça a été un festival aussi de fermeture-réouverture, à commencer par celui des concessionnaires.
Oui, j'ai l'impression que ça fait une éternité de tout ça. Et oui, en mars, on a fermé tous les commerces qui étaient non essentiels au Québec et on les a réouverts là, progressivement. Ça a été le cas d'abord des ateliers mécaniques parce qu'on s'est rendu compte qu'au printemps, changer les pneus d'hiver pour les pneus d'été, finalement, c'était essentiel. Puis d'avoir un véhicule en ordre et d'avoir un véhicule accidenté qui se fait réparer, c'est considéré comme essentiel. Et après ça, on n'a pas eu le choix de réouvrir le département des ventes des concessionnaires. Donc, tout ça s'est fait graduellement au mois de mai. Mais
ce qui est drôle, c'est que...
On n'est pas assez vieux. Je ne veux pas dire que tu es plus vieux, mais tu es plus vieux que moi. D'avoir vu les concessionnaires être fermés pendant des semaines, c'était du jamais vu.
C'était du jamais vu. Puis, ce qui est ironique, c'est que... Le bilan qu'on en fait en fin d'année aujourd'hui, c'est qu'il y a certains constructeurs qui n'ont pas réellement souffert de cette fermeture et ouverture-là. En fait,
ils ont souffert sur le coup.
Le constructeur automobile a peut-être souffert, mais le concessionnaire automobile, lui, n'a pas si souffert que ça parce qu'il a
souffert dans d'autres avenues. Là. Donc, souvent, les concessionnaires ont manqué de véhicules d'occasion. Ça, c'était...
Ils ont
manqué d'inventaire dans le neuf aussi pour certains modèles.
Voilà, sauf que lorsqu'on réussissait à avoir des véhicules, ça restait pas dans les cours une semaine. Donc, les coûts de financement des véhicules étaient beaucoup moindres. Ça a fait en sorte qu'évidemment, les ventes ont été plus profitables. Il n'y avait pas de gros rabais non plus. Non. Le constructeur, certains constructeurs allaient mettre des paiements allégés, donc Kia qui offrait 6 mois de paiement gratuit sur certains modèles.
Et ça a permis à Kia de vendre énormément de véhicules et on s'est positionné au premier rang là au printemps en termes de vente là chez Kia, donc c'était assez exceptionnel comme ça. Et tu te rappelles encore une fois, j'ai l'impression que ça fait une éternité, mais au printemps on nous disait de s'attendre à des rabais comme on n'en avait jamais vu pour les véhicules parce qu'on craignait d'être coincé avec des inventaires de 2019 restants, de 2020 qui arrivaient et de 2021 qui allaient arriver pas grand temps après, mais on...
C'est pas ce qui s'est passé.
Non, absolument pas. Et ça, je t'avoue que je l'ai pas vu venir non plus qu'on allait manquer d'inventaire comme ça. Et
chez certains constructeurs, c'est encore le cas.
Oui, absolument. Absolument. Et le fait que les usines aient été fermées, que la relance a parfois été longue, que l'approvisionnement de ces usines-là est difficile, ça a pas rendu la tâche facile pour tout le monde.
Tu parles d'usine de production automobile, fermeture et réouverture d'une usine d'importance pour le marché canadien, c'est celle de General Motors à Oshawa. On l'a d'abord fermée, les employés ont crié au scandale. Oui. On avait même reçu en entrevue, toi et moi, un ex-employé qui avait travaillé à l'usine de Boisbriand ou de Sainte-Thérèse et ensuite à l'usine d'Oshawa qui avait perdu son emploi puisque Oshawa fermait ses portes. Maintenant,
cet automne, on a appris la réouverture de cette usine-là. Et chez GM, on nous a dit non, ce n'est pas une réouverture. On n'a jamais cessé. Non, mais il ne se produisait plus de voitures comme telles. Vous avez produit des masques à cette usine-là. C'est très bien. On est content pour vous. Mais là, la grande nouvelle, c'est qu'on va produire à nouveau des véhicules et des véhicules populaires, des véhicules rentables, c'est-à-dire des camionnettes.
Exactement. On va parler maintenant de véhicules qu'on a pas roulé cette année, des véhicules qui nous ont manqué parce que évidemment on a la chance de conduire une panoplie de nouveautés, mais il y en a
plusieurs par semaine bien souvent.
Ouais, il y en a quelques-unes qui nous échappent et moi ma grosse déception de l'année, celle que j'ai vraiment manquée, c'est la Shelby GT 500.
Ouais.
C'est vraiment une bagnole qui pique ma curiosité. Une première Mustang de haute performance sans boîte manuel avec une puissance démoniaque de plus de 700 chevaux. Je suis vraiment, vraiment curieux de conduire cette voiture-là. Toi, de ton côté?
Et une voiture qui passe quand même un peu sous le radar, j'ai l'impression. Elle n'a pas été beaucoup publicisée, mais c'est assez...
Encore une fois, évidemment, j'imagine que l'approvisionnement au Canada, le nombre d'unités de Shelby GT500 qui se sont vendues chez nous, ça ne doit pas être beaucoup parce que les usines ont dû cesser, puis c'est pas une voiture de à volume, on s'entend.
Non. On est d'accord. De mon côté, écoute, Antoine, c'est un peu étrange. J'ai toujours pas conduit la Corvette de 8e génération. Je me rappelle que tu avais assisté à son lancement et que tu as pu la reconduire à nouveau, mais on n'en a pas eu des masses ici au Québec. Il n'y en a pas eu de disponibles non plus sur la flotte de presse. Donc, j'ai pu la voir de près au salon de l'auto, mais de la conduire, ça manque encore à ma culture. Et tu sais, j'avais beaucoup apprécié le modèle de 7e génération. On avait tous été surpris au dévoilement du modèle de 8e génération. Donc, ma curiosité n'est pas encore satisfaite, là.
Bon, une autre voiture, moi, qui a piqué ma curiosité et que j'ai bien hâte de conduire, c'est l'Audi RS6 Avant, qui est l'ultime voiture familiale de performance. C'est incroyable. Sauf qu'évidemment, Audi, bon, les gens ne sont peut-être pas conscients de ça, mais Audi Canada ne nous prête pratiquement pas de voiture, sauf à un chroniqueur de l'équipe. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment pas évident de mettre la main pour nous sur des véhicules Audi. Et moi, quand j'ai pu essayer cette année, le Q3, la Allroad, par exemple, c'est des voitures que j'ai empruntées chez des concessionnaires. Audi Canada ne prête de voitures qu'à 2 ou 3 Québécois.
Et sinon, il faut faire appel à des propriétaires de véhicules.
Alors, c'est un défi, c'est un défi un peu plus complexe que de mettre la main sur des voitures Audi.
Mais pourtant, la RS6, c'est une familiale extraordinaire. Absolument. Et tu sais, chez Mercedes, on a la E63 AMG S qui est également une familiale pour laquelle on n'a aucune raison. Hein. C'est 100%, c'est 100% de la passion. Ben on a recréé ce principe-là.
Et elle est magnifique, RS6. Voilà. Donc, c'est vraiment, moi, c'est un coup de cœur au niveau technique et au niveau esthétique, cette voiture-là, que j'ai bien hâte de découvrir. Les autres voitures qu'on a hâte de conduire, mais qui vont arriver plus tard, évidemment, on en a répertorié quelques-unes. Moi, je commence tout de suite avec la Honda Civic. Qu'on a vu, là, elle a été dévoilée récemment. Esthétiquement, c'est rien pour m'émoustiller, là, on s'entend. Là.
On est d'accord, mais ça demeure un véhicule.
J'aimerais te mentionner qu'une voiture ne m'émoustille pas. J'ai utilisé ce mot-là pour vraiment signifier le fait que j'étais pas vraiment excité à la vue de cette nouvelle Honda Civic. Mais j'espère tellement qu'Honda va avoir travaillé pour qu'on retrouve un peu de l'essence des anciennes Civic, pour qu'on puisse retrouver juste un peu de passion à conduire une Honda Civic.
Je pense que t'en demandes beaucoup, là. La passion, on la retrouve dans les versions de performance, mais les versions...
Mais je te parle pas d'une Civic.
Mais autrefois, une Civic, même ordinaire, il y avait un petit quelque chose. Là.
C'est ça.
Mais là, il n'est plus là,
Il n'est plus là, et j'espère aussi, je suis très curieux de voir ce qu'on va exploiter comme motorisation là-dedans.
Oui, parce qu'on va faire l'erreur de reprendre le 4 cylindres 1.5 litres.
Moi, j'ai l'impression que oui. Mais Honda, qui est considéré comme un motoriste, nous a prouvé qu'il n'était pas infaillible. Ouais. Et même s'ils pensent qu'ils le sont encore, je pense que ce moteur-là, je pense qu'aujourd'hui, 5-6 ans après l'arrivée de la mécanique 1.5 turbo, on peut crier « c'est un flop, c'est une erreur
». Et le principe d'une erreur, Antoine, c'est quoi? C'est de ne pas la répéter.
Exactement. Ouais. Alors, on va voir ce que ça va donner avec cette nouvelle Civic-là, mais je suis bien curieux de conduire ça. Le Bronco aussi.
Oui, voilà, le Ford Bronco qu'on a vu sur la
le
page.
Le vrai, là.
Le vrai, gros. Pas le Bronco Sport. Celui qu'on a vu là sur la page couverture du guide de l'auto, c'est le véhicule dévoilé cette année le plus marquant. On a conduit le Bronco Sport qui est le plus petit dans la famille Bronco, mais le vrai Bronco, celui qu'on attend depuis si longtemps, on l'a pas conduit encore. Et ça va se faire, on l'espère, au courant de l'année 2021.
Absolument.
On nous a promis que on nous a dit que les livraisons allaient être repoussées. On sait qu'il y a des délais interminables, des listes d'attente qui débordent parce que oui, il y a un engouement pour un authentique 4x4 comme ça. Et je suis pas tout seul à avoir hâte de le conduire.
On a été, je dirais pas, je veux pas dire insulté, mais que Chrysler ait poussé l'audace à mettre un moteur V8 de 700 chevaux dans un Ram, dans un Durango, dans tout ce que tu voudras. Là, on dépasse...
Tout ça dans les années 20, là.
C'est ça. On dépasse les limites de ce qu'on peut s'imaginer, alors que l'industrie automobile essaie d'être plus propre que jamais. Ben, chez Chrysler, c'est le contraire. Par contre, il y a une lueur d'espoir avec le Wrangler. D'un côté, on va mettre un moteur 392 dedans.
Exactement.
V8.
Donc oui, on a une version là, 4XE qui est sur le point de voir le jour, mais qui, oui, va être hybride, rechargeable. OK, c'est bien, on est content.
Mais moi, c'est la version qui m'intéresse parce que... Et j'ai très, très hâte de conduire ce véhicule-là. Pourquoi? Parce que le couple instantané de l'électrification dans un contexte de conduite hors route, ça va être absolument génial. Et ça, j'ai vraiment hâte de voir comment les ingénieurs de Chrysler ont travaillé là-dessus.
J'ai très hâte de te voir te recharger, moi aussi, là, dans le bois.
Ouais.
Et tu parlais du couple du moteur électrique. Ben,
un érable hier, là, tu plantes le chalumeau. Ça marche-tu, ça?
Je suis pas sûr.
Non.
C'est comme ça que ça fonctionne. Okay. Bon. Mais tu parlais du couple de la version 4XE. Du couple, il va y en avoir là, dans la version EMI.
Oui, aussi.
À moteur 6,4 litres. Là,
comme l'impression que ça va être un peu lourd du museau.
Ça va piquer du nez, j'ai l'impression. Toujours chez Jeep, hein, il y a le Jeep Grand Wagoneer qu'on a vu cette année, qu'on espère conduire l'année prochaine. Parce que, les gros véhicules commencent à être vieillissants chez Jeep, on a besoin de se renouveler et c'est un segment qu'on ne couvre pas, hein, les grands VUS chez Jeep particulièrement. Donc, de faire revivre le Grand Wagoneer, ça va être particulier.
Et ça va être payant pour le constructeur.
Ah, ça, il n'y a pas de doute.
Deux véhicules électriques rapidement dont on peut faire mention. D'abord, le Mazda MX-30.
Oui.
Est-ce que Mazda va réussir à offrir une formule intéressante avec le MX-30 et surtout un véhicule plus amusant que la moyenne à conduire?
Et est-ce qu'on va être capable de faire avaler la pilule de la faible autonomie et de l'autonomie qui...
On a encore le temps de s'ajuster, honnêtement. Là.
On a le temps, oui, mais est-ce qu'on va nous jouer la carte d'avoir un véhicule peut-être pas trop cher? Ça m'étonnerait parce que chez Mazda, on ne se positionne plus dans cette guerre. On ne se positionne plus comme étant un batailleur dans une guerre de prix. C'est plus là où on est. Donc, je sais pas quelle stratégie on va avoir avec le MX-30, mais ça va être intéressant à surveiller. Mazda qui ne propose pas de véhicules électriques.
Ou même hybride.
Donc, on n'a même pas un petit doigt de verre, là. Donc, j'ai bien hâte de voir. La suite pour le MX-30. Volkswagen ID4 aussi, qui est sur le point de débarquer. On a vu des véhicules être mis à l'essai par des gens de Volkswagen, autant à Toronto qu'au Québec. Donc, ça va être un véhicule très important pour Volkswagen parce que oui, on avait la e-Golf qui est un véhicule électrique de première génération, mais on n'est plus là. Le marché a énormément évolué. Ça va extrêmement vite dans la sphère électrique. Donc, de le voir de près, de le conduire, de connaître son prix, ça va être franchement intéressant et on va suivre ça en 2021.
Quelques produits que j'ai hâte de voir aussi sur le plan visuel. Bon, je vous nomme le Honda CR-V parce que, je veux dire, c'est un véhicule d'importance et le Honda CR-V de dernière génération, même si ça a été super populaire, très, très, très... je veux dire, ça s'est jamais vendu autant au Canada.
Mais en même temps, le segment LED.
Segment LED, là, mais pour moi, c'est un des moins bons CR-V qu'on a produit pour sa mécanique, pour son côté ennuyant aussi un peu, et parce qu'il a vieilli plus vite que la moyenne. C'est vrai que, bon, il y a eu des CR-V où on a eu des problèmes de châssis qu'on a réglés, mais on est loin de l'époque des CR-V super envoûtants. Moi, je pense la génération qu'on a lancée en 2002, qu'on a gardée jusqu'en 2007, qui pour moi était ma favorite. C'est un véhicule très, très, très efficace. Ça s'est embourgeoisé avec les années, etc. Là, est-ce qu'on va arriver avec un produit un peu plus hors champ? Parce que la tendance est là, c'est-à-dire que Toyota, avec le RAV4, est allé champ gauche au niveau du design.
Ça a déjà été ça. On se rappelle, le CR-V, ça a déjà été un petit 4x4 boxy, comme on dit en français.
Oui, là, je pense pas qu'on va revenir à une formule comme ça pour rivaliser avec un Bronco Sport, mais en même temps, ça pourrait être une belle curiosité. Alors, je suis curieux de voir ça.
Il va falloir qu'on arrive avec l'hybride rechargeable. Il va falloir qu'on embarque dans l'arène à un moment.
Oui, c'est ça, absolument.
Et on parlait de Jeep tout à l'heure. Il y a le Grand Cherokee, il y a le Dodge Durango aussi, deux véhicules qui comme, ça fait encore le travail là, étonnamment.
Mais on sait que le Grand Cherokee, oui, on va le voir d'ici quelques mois, j'ai vraiment hâte.
Ben, ça va faire du bien parce que c'est ça, la génération actuelle, ta mémoire est meilleure que la mienne, mais on remonte
2011.
2011, voilà. Donc, on arrive en 2021, 10 ans pour un véhicule sur le... aujourd'hui, c'est extrêmement long.
Payant pour Jeep, plus qu'on en vend encore beaucoup. Et un autre véhicule...
Ça va continuer de l'être, là, payant avec le nouveau, parce que j'ai pas l'impression qu'on va en vendre moins. Là.
Non, c'est ça. Puis, un autre véhicule, j'ai bien hâte de le voir. Moi, j'ai vu des esquisses officielles de ce camion-là. C'est le nouveau Nissan Frontier. On sait que le marché de la camionnette intermédiaire est grandissant.
Ben, t'es en train de revivre, finalement.
Il y a de la demande.
On a connu un creux, quoi, au tournant des années 2010. Puis ça,
2013, 2014.
Au moment où on a abandonné l'ancien Ranger.
Le Ranger, le série B, le Dakota. Il y a plusieurs joueurs qui sont disparus. Mais on est revenu. Et là, nomme une marque, peut-être à part Honda, où les Ridgeline sort un peu moins.
Mais le Colorado...
Il n'y a pas d'inventaire.
Tout se vend là, facilement.
C'est ça. Puis il n'y a pas d'inventaire. Fait que c'est un marché très intéressant. Et je sais que Nissan a l'intention...
Même le Ranger se vend, tu sais.
Oui, c'est ça. Mais Nissan va débarquer avec un Frontier conçu pour le marché nord-américain. Ouais. Donc, il ne sera pas comme la camionnette Tacoma l'est. Mm-hmm. Parce que la Tacoma, ce n'est pas vendu ailleurs dans le monde. Ce n'est pas une camionnette.
Mais l'ancien Frontier était...
L'ancien Frontier, c'était une Nissan Navara vendue ailleurs.
Mais il convenait à l'Amérique du Nord, non?
Oui, sauf que le marché a évolué.
Oui, tout à fait.
On l'avait adapté en ce sens-là. On avait différentes longueurs de caisse. Ouais. Ce qu'on n'a pas avec le Ranger actuel.
Effectivement.
Qui est un véhicule adapté de d'autres marchés. Donc, ça va être bien intéressant de voir ça. Alors, au retour, on parle avec Jacques Duval, qui va nous entretenir sur l'histoire du guide de l'auto.
Le guide de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
Germain, toi et moi, on serait pas ici aujourd'hui s'il y avait pas quelqu'un qui un jour avait eu l'idée d'inventer le guide de l'auto, parce qu'on anime la 100e émission du guide de l'auto aujourd'hui, radio.
Et qui a presque littéralement pavé notre voie.
Exactement, c'est un excellent jeu de mots. Sur ces belles paroles, Germain, on va tout de suite aller s'adresser à Jacques Duval qui est avec nous. Bonjour, Monsieur Duval.
Salut, messieurs. Ça me fait extrêmement plaisir d'être avec vous. Je vous remercie. C'est un honneur pour moi que vous me rendez en ce moment avec cette émission spéciale.
Ben, c'est un honneur pour nous de vous recevoir, sachez-le. Donc, écoutez, sans plus tarder, on va commencer avec le début. L'idée d'un guide de l'auto, donc d'un livre papier sur l'automobile, c'est venu d'où?
C'est venu, en fait, de Radio-Canada. Il y a beaucoup de gens qui savent pas que c'est cet aspect du guide de l'auto. C'est que j'avais soumis une émission à Radio-Canada qui a marché assez bien pendant une saison. Et après une saison, je l'ai proposé à Radio-Canada dans le même format ou à peu près. Et ça a connu des codes d'écoute extraordinaires.
On parle de prenez le volant, là.
On parle de prenez le volant.
OK, et d'accord.
La première émission s'appelait aussi prenez le volant. Alors, il y a eu prenez le volant, il y a eu un intermède, et ensuite prenez le volant encore une fois. Et après, évidemment, il y a eu toute la suite après les émissions qu'on a faites à TVA, etc.
Et le guide de l'auto, vous avez eu cette idée, autrement dit, de prendre le contenu que vous mettiez à l'écran et de le mettre à l'imprimé, là, tout simplement.
Oui, c'est exactement ce que je cherchais comme inspiration. C'est de t'entendre dire, dans ce moment-là, tu n'étais pas là, mais en tout cas, au moins, c'est dans
si j'y étais, j'ai pas beaucoup de souvenirs, je vous avoue.
Sauf la fois où tu es venu me déranger chez moi pendant que j'écrivais un article.
Ouais, c'est... Là, on parle de quelques années plus tard. Là. On est dans les années 90. Là. Fait qu'il y a beaucoup de guides qui ont été imprimés depuis. Ouais.
Et pour vous, ça a été naturel d'en faire un ouvrage qui est devenu annuel? Donc, la première expérience a été assez concluante?
Elle était très concluante. C'est pour ça que Radio-Canada a beaucoup aimé la version que je leur avais proposée. Et quand j'ai récidivé en leur proposant encore une fois la même émission, ils ont vraiment sauté sur l'occasion parce que ils voulaient avoir quelque chose sur l'automobile, mais ils savaient pas quoi, puis ils étaient un peu mêlés. Alors, ce que je leur ai proposé, ça a tout de suite cliqué et ça a fonctionné assez bien, de sorte que ça a duré 7 ans à Radio-Canada, puis après ça, ça a fait une dizaine d'années à TVA.
Le premier guide de l'auto que vous avez lancé pour l'année 67, il n'avait pas d'année, évidemment, sur le livre, puisque c'était le tout premier. Est-ce que vous saviez à ce moment-là que ça deviendrait un rendez-vous annuel ou vous aviez l'idée de sortir ça une seule fois au début et ne sachant pas ce qui arriverait pour la suite?
Non, c'est parce qu'on a eu tellement de succès avec la première édition, c'est qu'on s'est dit, si ça marchait aussi bien, à hauteur de 10 000 exemplaires, on devrait être capable de soutenir ce rythme. Et j'avais parlé avec Alain Stanquet, qui était mon éditeur à l'époque,
ouais.
Et qui avait dit, oui, pourquoi on ne sait pas, ce serait intéressant, je suis d'accord. Et il est intervenu suffisamment pour qu'on puisse planter les racines du guide de l'auto et connaître le succès qu'on a connu. Parce que dans ce temps-là, des livres qui se vendaient à 10 000 exemplaires, c'était assez rare, c'était plus ça dans le 2-3 000 exemplaires, et c'était des petits livres insignifiants. Alors,
mais encore aujourd'hui, un livre qui se vend à 10 000 exemplaires, c'est un succès, là.
En fait, c'est considéré un best-seller à partir de 5 000.
Bon, voilà. Voilà.
Alors, le guide de l'auto dépasse largement ce cadre-là. Évidemment, M. Duval, on imagine mal aujourd'hui réaliser un guide de l'auto à hauteur d'un seul homme, considérant la grosseur des volumes qu'on lance à chaque année aujourd'hui. Je sais d'ailleurs que vous trouvez ça un peu lourd, un peu massif comme produit par rapport à ce que vous offriez dans le temps. Mais comment est-ce qu'on fait pour rédiger un guide d'auto d'un couvert à l'autre? Seul, parce que ça, c'est un sacré défi aussi.
Oui, c'est un sacré défi que j'ai relevé difficilement et c'est ce qui a fait que je me suis un peu retiré parce que je ne sentais plus j'avais pas suffisamment d'énergie pour continuer dans la même veine et puis d'avoir un autre guide de l'auto sur les bras. C'est ça, que c'est ça qui est arrivé, c'est que ce qui a fait mon succès a fait pas ma déchéance, mais disons, trouvons un autre mot pour dire.
Vous avez, autrement dit, ce qui a fait que vous avez décidé de passer le flambeau, c'est ouais. L'énergie que ça prenait. Là.
Exactement. C'était impossible de faire ça. Je l'ai fait pendant quelques années, mais c'était un job épouvantable depuis ça m'a quasiment rendu malade. Alors, j'ai donc abandonné et puis j'ai cédé le passage à quelqu'un d'autre.
Vous avez, au tournant des années 80, décidé de vous entourer de Marc Lachapelle, notamment de Denis Duquet, pour vous aider dans la rédaction du livre. Comment est-ce que vous avez trouvé ces gars-là à l'époque? Parce qu'évidemment, c'était pas aussi facile qu'aujourd'hui de peut-être avoir accès à des gens qui étaient des passionnés et qui n'avaient pas nécessairement de médias pour pratiquer leur métier dans le temps. Là.
Moi, j'étais vraiment... À la course, je cherchais un collaborateur fiable qui connaissait l'automobile et qui lui plaisait l'automobile.
Ouais.
C'est Denis Duquet qui est intervenu à ce moment-là. Et puis, il travaillait pour une petite revue insignifiante sur le bowling ou je sais pas trop quoi. Et puis, donc, Denis a accepté de travailler une première année. Et son travail était suffisamment intéressant pour que je le garde pendant la deuxième année. Et ça a continué comme ça pendant une période de 15 à 20 ans, sinon plus.
Et je me permets aussi de citer Marc Lachapelle, parce que je sais que vous n'étiez pas à l'époque un amoureux des camions, et Marc avait commencé au Guide de l'auto avec le mandat de parler de camions, ce qui vous plaisait un peu moins. Lui s'est joint à l'équipe une année ou deux après M. Duquet, là, si je me souviens bien.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, ils étaient des amis, de grands amis, et c'est comme ça que je les ai connus davantage et que j'ai connu le talent de Marc, qui est extraordinaire. Denis, c'est un tempo un peu plus commercial, mais c'est quand même, il fait quand même du travail régulier et très, très valable. Alors, j'avais mon deuxième homme d'abord et mon troisième homme, The Third Man. C'était dans les années avant que décède son auteur.
Ouais, ouais.
Vous qui êtes à l'origine du guide de l'auto, comment vous expliquez que, bon, plus de 50 ans plus tard, ce soit toujours un si grand succès et que un succès québécois, mais qu'en dehors de la province, bien qu'il y ait eu des essais qui aient été faits, ce soit un succès qui soit propre au Québec, là?
Oui, tout à fait. Et c'est souvent, quand on rencontre soit des Américains ou des Ontariens même, ils nous disent, comment vous faites pour fabriquer un livre comme celui-là? Je dis, je ne sais pas. C'est aussi simple que ça. On a eu un succès extraordinaire. Ça a bien fonctionné à tous les points de vue. Et je me pose encore la question, comment on a fait pour arriver à produire un ouvrage comme celui-là.
C'est certain que quand on analyse un peu le marché, on regarde ce que nos collègues ontariens ont comme produit. Évidemment, ils vont se nourrir beaucoup des publications américaines, mm-hmm. ce qui n'est pas nécessairement le cas au Québec. Donc,
mais ils ont une chance de s'adresser à un public qui est beaucoup plus grand que ouais. le nôtre, là, qui est limité finalement à 8 millions de population. Là.
Exactement. J'ai pas le choix, M. Duval, de souligner votre impeccable français et le fait que vous avez contribué à faire connaître des mots automobiles en français aux Québécois, parce que
c'était très anglophone.
Un Bering
comme domaine,
de roue puis oui, un Windshear, voilà. On sait c'est quoi, mais en français, vous êtes probablement le pionnier, celui qui avait appris à parler automobile en français au Québec de très très belle façon, et pour ça, je dois vous féliciter. Est-ce que c'était pas un peu difficile de d'éduquer les Québécois de cette façon-là à l'époque, parce que c'était un langage qui était carrément inconnu là, au début.
Oui, tout à fait. Moi, j'ai eu une période où j'étais à cheval sur le français et je voulais pas que personne ne publie des articles ou autre chose dans la même veine, sans vraiment mettre l'accent sur la qualité du français et disons que j'aimerais davantage avoir de beaucoup plus de temps pour vous exposer mes façons de vivre et ma façon de travailler avec le français.
Est-ce que j'ai raison de dire que cet amour du français, vous l'aviez eu, vous l'avez ressenti, vous l'avez exprimé avant même que le guide de l'auto naisse en 1967? Là, ça s'exprimait déjà dans votre carrière pré-guide de l'auto.
En fait, j'ai commencé à m'intéresser à ce genre de choses alors que j'avais à peu près 15-16 ans et je travaillais à la maison chez nous à Lévis. Je concoctais des articles sur l'automobile alors que je ne connaissais absolument rien. Mais c'était un sujet qui me passionnait et qui m'a passionné pendant longtemps. Et puis, dont je suis un petit peu fatigué maintenant, je vais vous le dire franchement. J'ai des périodes où l'automobile ne me donne pas satisfaction dans la forme où elle est maintenant.
Vous avez évidemment, vous êtes celui qui avait donné naissance au métier de journaliste automobile chez nous au Québec. On peut dire ça comme ça, au même titre qu'Yvon Deschamps a été le premier humoriste.
Le grand public.
Le grand public, oui. Là. Comment vous entrevoyez le domaine et l'avenir du métier aujourd'hui, en 2020, parce que ça s'est transformé. Il y a beaucoup plus de monde qu'à une certaine époque. Et,
les tribunes aussi se sont diversifiées.
Les médias ont changé. Ouais. Votre impression là-dessus, c'est quoi?
Ben, malheureusement, je trouve que la qualité a baissé énormément et il va falloir apporter des correctifs parce que l'automobile écrite, comme on le fait depuis quelque temps,
ouais.
C'est vraiment pitoyable. C'est pénible, et je le dis pas méchamment, je veux juste exprimer la chose et que les gens sachent qu'on peut écrire en automobile et puis le faire de façon propre et honnête. Alors, c'est ce que j'essaie de faire depuis longtemps. Et par contre, je remarque qu'on n'est pas toujours bien servi en ce sens que on publie des articles ou des condensés ou n'importe quoi, et puis on n'est pas suivi par une grosse majorité de personnes et de prétendants au titre de meilleurs journalistes automobiles. Il y en a qui font un bel effort et qui arrivent à certains résultats, mais il faut vraiment être patient et puis savoir où on va.
J'y vais sur une note un peu plus personnelle, M. Duval, parce que vous savez que moi aussi, je suis un amateur d'automobile, que j'ai étudié en business marketing automobile, et il ne se passe probablement pas une année sans que j'ai un peu envie de faire le saut dans l'industrie, parce que je vais remarquer que chez certaines compagnies, ben ça dort au gaz, comme on dit en bon français, c'est-à-dire que je vois des stratèges marketing qui font un travail épouvantable. Table et je me dis, mais
le plein potentiel d'un manufacturier n'est pas exploité. Là.
Exactement. Et moi, j'ai le goût de sauter la clôture, chose que je ne ferai probablement jamais, mais il ne se passe pas une année sans que j'y pense. Et vous êtes le seul, littéralement, qui avait fait le saut du Mont Québec. Là, j'ai un exemple du côté ontarien, mais.
Et de manière
Québec,
transparente.
Voilà. Alors, vous êtes le seul qui, en 1986, avait décidé de faire le saut et de mettre les deux pieds dans l'industrie pour aller goûter à ça, pour sauter l'autre côté de la clôture. J'aimerais vous entendre sur cette expérience-là que vous avez vécue avec Ford et qu'est-ce que ça vous a amené, autant sur le plan humain que sur vos connaissances générales de l'automobile?
Ben, disons que ça m'a apporté surtout des connaissances, comme tu viens de le dire, un peu sur la voiture d'automobile. On a fait beaucoup de chemin, mais je me suis fait reprocher à maintes reprises par des gens du milieu ou à dehors du milieu. Je me suis fait reprocher de d'être vendu et de d'aller dans le commercialisme davantage. Et ça me fait beaucoup de peine parce que c'était pas voulu comme ça. Et comme tu l'as si bien remarqué maintenant, c'est que c'est devenu une façon très, très pertinente de suivre l'automobile et de l'analyser.
Absolument, absolument. Parce que, évidemment, moi, j'ai suivi votre carrière à cette époque-là. Vous étiez présent chez Ford. Vous aviez le contrat de vous occuper des publicités. Et aujourd'hui, je m'amuse certaines fois à aller regarder du contenu automobile du passé sur les plateformes comme YouTube, où on retrouve des publicités de Jacques Duval des années 80 qui vantait l'Aérostar de Ford et des trucs comme ça. Alors, un véhicule à quatre roues motrices extraordinaire. J'ai une pub de la Mercury Tracer que j'ai vu passer il n'y a pas longtemps.
Un autre bolide d'exception.
C'est ça. Mais c'est des pièces savoureuses. C'est le fun de voir ça. Mais en même temps, moi, ce qui m'intéresse de ça, c'est tout le côté stratégique qui avait été pensé derrière ça. Comment on assiste à un brainstorm avec l'équipe de chez Ford à cette époque-là pour mettre tout ça en œuvre et pour commercialiser ces voitures-là. C'est un aspect qui est très intéressant. J'imagine que lorsque vous êtes revenu en tant que journaliste autour de 1994-95, si ma mémoire est bonne, ça a dû contribuer énormément à votre bagage de journaliste pour être capable de mieux analyser l'industrie.
Oui, tout à fait. Et ça m'a beaucoup plu comme travail parce que, disons qu'il y avait plusieurs autres personnes qui commençaient à frapper à la porte. Et puis, je trouvais qu'on était quand même mal servi à certains moments. Les gens qui devaient s'occuper de la bonne tenue du français
ouais.
dans les livres et dans les émissions de télévision ou de radio comme la vôtre, moi, je trouve que vous faites un travail bien le fun. Je pense que si je regarde ce que vous faites et ce qu'on fait maintenant, vous êtes largement gagnant. Et je dis pas ça pour vous flatter et pour vous...
Ça me flatte un peu quand même, là.
me faire mériter.
C'est bien gentil, merci. Monsieur Duval, merci beaucoup d'avoir pris du temps avec nous.
Merci
je vous
nous
souhaite
avoir
de joyeuses fêtes et puis au plaisir de se reparler peut-être pour une prochaine entrevue qui sera un peu plus en profondeur. Merci beaucoup, Monsieur Duval.
Merci, Monsieur Duval.
Merci infiniment. Merci.
Au revoir.
Antoine Joubert, Germain Goyer, des vrais gars de char, le guide de l'auto.
Antoine, même si cette émission est quelque peu spéciale, on ne perd pas nos bonnes habitudes et tu vas nous présenter la chronique de la semaine. Et tu as eu la chance de visiter la collection personnelle de Luc Poirier. Et ce qui m'a bien fait rire, c'est qu'à ton retour de cette visite-là, eh bien, la première photo que tu m'as montrée de cette collection-là, c'est pas le F40, c'est pas le F50, c'est pas la Enzo. C'est une pauvre Pontiac Fiero malhabilement déguisée en Ferrari.
Bon, alors, faut mettre les gens dans le contexte. Pour ceux qui ne connaissent pas Luc Poirier, c'est un collectionneur de voitures bien connu au Québec. Il y a d'ailleurs un reportage dans le Guide de l'Auto 2021 sur une partie de sa collection qui avait été réalisée par Gabriel Gélinas.
Et on l'avait reçu ici même à l'émission il y a plusieurs semaines.
Exactement. Et Luc Poirier a réussi l'exploit de rassembler l'ensemble des supercars Ferrari. Alors, la 288 GTO, F40, F50, la Enzo, la LaFerrari, la LaFerrari Aperta, et ça continue comme ça. Même chose avec les Porsche 959, la 918 Spyder, la
Carrera GT. Carrera GT. Tout le monde y est, là.
C'est ça. Alors, c'est une très belle collection, mais à travers tout ça, j'ai pu apercevoir une horreur mécanique. Je pense qu'on peut s'exprimer comme ça.
Mécanique et esthétique.
Donc c'est une mauvaise... On sait que la Pontiac Fiero, qui est une voiture qui a été vendue dans les années 80 et a été utilisée par plusieurs entreprises ou gens pour faire ce qu'on appelle des kit cars. Donc, autrement dit, recarrosser une voiture et lui donner le look d'une autre voiture. On l'a vu avec plusieurs Ferrari 308, 328. Là.
Des pâles imitations de Lamborghini aussi. Le fait que le moteur était à l'arrière, le fait qu'on avait un petit coupé, le fait qu'on avait...
C'est un space frame, donc on peut littéralement déboulonner tous les panneaux de carrosserie et en reboulonner d'autres. Ben, ça fait en sorte que tu as beaucoup de flexibilité.
Il y en a qui ont oublié d'en reboulonner, ça se peut-tu?
Oui, c'est ça. mais bref, ça a ouvert la porte à beaucoup d'entreprises et de gens qui ont décidé de se faire des fausses...
Ça a ouvert la porte trop grand, à mon avis. Continue.
Bref, y a beaucoup de gens qui se sont fait des fausses voitures exotiques avec ça. Et le summum, la crème de la pire voiture, c'est cette... Je peux même pas appeler ça une Ferrari Enzo, mais bref.
Une ferraillerie.
Une ferraillerie. Alors, c'est grosso modo un pseudo-semblant de Ferrari Enzo qui a été fabriqué par quelqu'un aux États-Unis. Mais l'histoire la plus intéressante de cette voiture-là, c'est que son propriétaire, à l'époque, a réussi à faire inscrire la voiture au concours d'élégance de Monterey. OK.
Et ça, tu pourrais pas là, t'inscrire à ce concours-là avec ta grosse brune.
La moyenne des voitures qui se retrouvent là, c'est des voitures, bon, toujours minimalement dans les 7 chiffres, des voitures d'exception du grand art automobile. Et c'est la crème de la crème des expositions automobiles. Et bref, le type a inscrit cette voiture-là comme une Ferrari Enzo, a reçu... pour une raison inexpliquée, son homologation, donc son accréditation pour pouvoir être présent avec la voiture sur le site, a payé son dû pour pouvoir être présent aussi. Et quand il s'est présenté avec l'ordure mécanique qui est cette espèce de Fiero 1987 avec une carrosserie digne d'un Dolorama installée à la hâte avec des broches là-dessus, ben évidemment, les organisateurs ont fait « Mais c'est quoi ça? » Tu peux pas rester ici. Et lui a sorti le papier en disant, ben moi, j'ai tous les papiers, j'ai les droits d'être ici, vous m'avez inscrit et voilà. Et
je sais pas si cet homme, c'est mon idole ou celui que je déteste le plus au monde.
C'est dur à dire. Cela étant dit, la voiture a quand même passé tout le week-end au concours d'élégance. Et le gag, c'est que, parce que les organisateurs étaient tous outrés de voir cette auto-là, au même titre que les autres qui exposaient des voitures, ils ont décidé de placer la voiture tout près des toilettes à l'autre bout du terrain pour pas qu'on la stationne à côté d'une autre Ferrari Enzo. Sauf que ce qu'on n'avait pas réalisé, c'est que tout le monde au courant de la journée vont aux toilettes.
Oui, donc c'est un fait.
Tout le monde l'a vu, cette voiture-là. Elle a été, c'est devenu viral. Cette voiture-là a été super populaire sur les réseaux sociaux. Il y a Jay Leno qui a fait un reportage sur place sur la voiture, qui en a ri énormément. Le YouTuber Doug DeMuro en a parlé aussi. Et le gag, c'est que bien après l'événement, Doug DeMuro, qui est connu dans le milieu automobile, lui a une plateforme de mise aux enchères, d'enchères un peu comme Bring a Trailer, où on peut miser sur des voitures à vendre sur son site, sur sa plateforme. Le propriétaire de cette fameuse Fiero-là a décidé de vendre aux enchères la dite voiture.
La dite Ferrari.
La dite Ferrari. Donc, et tout le monde en a parlé, ça a été une mauvaise blague. J'ai des collègues journalistes ontariens qui ont écrit des articles là-dedans dans le Toronto Star. Bref, ça a été vraiment une voiture médiatisée à l'échelle mondiale, mais surtout à l'échelle nord-américaine. Et devinez qui a mis la main sur cette voiture-là pour la modique somme de 5 000 $ US.
Luc Poirier.
Luc Poirier qui a trouvé que c'était tellement
c'est une blague,
ridicule que lui a décidé, il a mis 5 000 $ pour le fun, puis il l'a eu. Et ça lui a coûté plus cher en frais d'expédition pour ramener la voiture ici au Québec que le prix de la voiture lui-même. Mais l'histoire...
J'espère que la voiture a été bien protégée là, dans le transport parce que c'est pas n'importe quoi comme bolide. Là.
Le gag, c'est que c'est tellement mal bâti que jamais ça va passer l'inspection au Québec.
Ouais.
Cette voiture-là ne pourra jamais être officiellement immatriculée. Mais en même temps, je pense que Luc Poirier a des jouets un petit peu plus inspirants à conduire que cette ordure mécanique. C'est effrayant. Et donc, ça m'a inspiré cette chronique-là cette semaine. J'ai partagé quelques photos sur le site du Guide de l'auto, sur ma page Facebook également, parce que c'est à n'y rien comprendre. Il doit avoir, là, on peut-tu dire ça? Il doit avoir un jour d'à peu près 3 pouces entre la porte et l'aile. Moi, je rêve de la conduire juste pour voir à quel point c'est mal bâti. Mais
et que ça les va mal.
Les portes ferment. Déjà qu'une Fiero...
C'est pas extraordinaire.
T'sais, on s'entend qu'il y a une expérience plus exotique comme conduite automobile. Ben ça doit repousser les limites de l'audace ou du ridicule que de. Et le gag, c'est que la plaque d'immatriculation de la voiture, lorsqu'elle était sur le terrain à l'exposition de Monterey, c'était One Bad Enzo.
Ah oui, elle
un BAD.
Elle est très, très bad, ouais, cette Ferrari.
Un délice avec un moteur 2.8 multiport de 125 chevaux, transmission manuelle 4 vitesses et suspension de chevette. Oui, mesdames et messieurs.
C'est l'art de nous faire rêver.
Absolument.
Antoine, c'est le moment de nous quitter. C'est le moment d'aller retrouver notre bulle familiale pour célébrer Noël. Donc, je te remercie pour ta participation à cette émission, Le Guide de l'auto, pour la 100e émission.
Absolument. Merci à toi, Germain. Et une salutation, encore une fois, toute spéciale à Jacques Duval, parce que sans lui, ni toi ni moi serions ici à parler du Guide de l'auto aujourd'hui. Et on va en profiter pour souhaiter joyeuses fêtes à tout le monde, même si ce ne sont pas nécessairement les fêtes qu'on aurait souhaitées. On va se réinventer dans le temps des fêtes.
On va se réinventer.
Oui,
voilà.
Et qu'est-ce que tu conduis dans le temps des fêtes, toi?
Subaru Ascent de mon côté. Donc, on souhaite un petit peu de neige.
Bon, ben moi, j'aurai une Mazda 3 turbo pour aller jouer dans la neige.
On
ainsi que le nouveau Kia Sorento 2021 qui a été retardé et qui arrive un peu plus tard que prévu. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner, ce produit-là, parce que...
Et on s'en reparle en janvier.
Mais on s'en reparle l'année prochaine. Salut tout le monde! Cube Radio.